Quand j'étais enfant, j'ai quitté un pays parce qu'il y avait la guerre.
Le Liban.
Le Liban. Sinon, je ne serais jamais venu en France.
La guerre au Liban a duré combien de temps?
13 avril 1975 jusqu'en 1990, 89-90, donc voilà. Une quinzaine d'années qui a fait que plein de Libanais comme moi sont partis. La guerre, j'en ai quelques souvenirs, et c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, qui est extrêmement
important. Il ne faut pas glorifier la guerre.
Non, il ne faut pas la glorifier. Et moi, je sais que ce qui m'a fait aimer la France, c'est ce luxe dont je bénéficie tous les jours depuis tant d'années que je suis ici, qui s'appelle la paix. Et j'ai conscience que c'est un luxe considérable parce que...
Mais c'est peut-être un luxe fragile.
Et c'est un luxe fragile, je le sais. C'est pour ça que toujours que dans le discours politique, quand les gens commencent à parler de guerre civile ou autre, je dis attention, parce que je sais d'où je viens et c'est quelque chose qu'il faut prendre.
Qu'est-ce que c'est une guerre civile?
Et qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile? Et il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Alors, parce que c'est pas du tout marrant. 5
attends,
minutes.
Je voudrais qu'on donne parole à Fred qui est avec nous et qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Fred.
Salut les GG.
Bonjour Fred.
Vous trouvez que 57% finalement c'est assez faible?
Sur le coup, quand j'ai vu le sondage, j'ai trouvé ça un peu étonnant, ouais, parce que je me dis que si on est français patriote, normalement, on devrait tous se lever, quoi. Peut-être que c'est un peu utopique, enfin peut-être un peu romantique comme façon de voir les choses, mais je me dis, enfin moi, je suis pas guerrier dans l'âme, mais si on devait venir envahir mon pays, j'aurais immédiatement envie de me lever et aller défendre mon pays.
Ça fait 43%.
Ça veut dire qu'il y a un déficit patriotique selon vous?
Moi, je pense. Hein, je pense. Enfin, après, il y a forcément une partie de la population qui a voté, donc forcément, ils sont d'accord. Mais allez voir un peu ce qui se passe. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas franchement l'attitude patriote. Quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que dans ma question, je mettais qui a voté. C'est vrai que c'est une vraie question. Je suis sûr que si on faisait un sondage à 100% sur tous les Français, on aurait peut-être un score très différent. Je sais pas.
Sur tous les jeunes, surtout.
Oui,
là, c'est des jeunes, hein, 57%.
Surtout les 18-25 ans, sur la totalité des 18-25 ans, ce serait intéressant.
Oui, moi,
là, c'est ça, c'est 57%.
C'est la totalité des 18-25 ans.
Bah, c'est un sondage.
C'est utopique.
On peut pas interroger tous les 18-25 ans. C'est un sondage, c'est un échantillon.
Un échantillon
représentatif.
Mais je sais bien.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins d'élan patriotique qui a pu y avoir il y a une décennie ou deux, quoi.
Ouais, je sais pas. Par exemple, je parle de ma génération, hein. Je suis pas convaincu que si du temps de ma génération, il y avait 57% des jeunes qui voulaient s'engager.
Olivier,
hein. Moi, j'étais une génération qui a vécu la chute du mur de Berlin. On était plutôt dans l'idée que c'était terminé. La paix serait éternelle. On était tous. C'est le début de la mondialisation. Voilà.
Autour de la table.
Je fais partie d'une génération qui a été à l'armée. Voilà, c'est sûr.
Mais tous, attendez, si on vous pose la question demain, est-ce que vous vous battrez pour défendre votre pays, vous répondez nécessairement oui.
Ah bah évidemment. Ça dépend. Évidemment.
Ceux qui disent non, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que
ce sont des ennemis, Antoine.
Il faut les mettre dans un internat de redressement.
Je pense que c'est beaucoup. C'est aussi grave que ce que vous décrivez. C'est que quand on n'est pas prêt.
Ça serait intéressant de savoir pourquoi les 43% restants n'ont pas voté oui. J'aimerais bien savoir, vraiment.
Parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire la guerre, soit par peur.
Mais on n'a jamais envie de faire la guerre. C'est pas une envie de faire la guerre. Tu dis ils n'ont pas envie, mais personne n'a envie de faire la guerre.
Il y a des déserteurs, des gens qui. Il y a des gens, à l'époque où le service militaire était obligatoire, il y a des gens qui étaient objecteurs de conscience.
Comment ça se passait? Il y avait une forme de sanction sociale ou pas du tout?
Oui, parce que quand tu étais objecteur de conscience, tu devais faire, je crois, 2 ans de mémoire dans une association, etc. Oui. Tu devais quand même donner de ton temps. Hein,
L'objecteur de conscience, il est gentil, je respecte son point de vue, mais enfin, s'il y a un vrai conflit, on va y aller à sa place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
À un moment donné, c'est comme une bagarre dans la rue, je suis désolé, je déteste la bagarre, mais moi, si je me fais agresser, je vais avoir peur, je vais pas avoir envie d'y aller, mais je vais pas rester debout à me prendre des gifles, hein, je vais me défendre, quoi. Donc le schéma, il est le même, quoi. Je pense que même si quelqu'un vient chez vous, vous avez pas envie, ça va être une scène, enfin quelque chose de très de grave, mais vous allez vous défendre comme vous pouvez. Donc c'est presque instinctif, je pense. J'espère que tout le monde a un minimum d'élan patriote et que le jour où il y aura un conflit, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais si ça devait arriver, j'espère que tout le monde se lèvera et puis qu'on ira défendre le pays, quoi.
Enfin, Vous avez touché le vrai sujet, Fred. Vous avez dit, j'espère que c'est instinctif. Bah oui, c'est instinctif de se défendre, de défendre son pays. Mais cet instinct-là, il a été tué par une certaine idéologie, une idéologie pacifiste, une idéologie de ah non, la violence ne résout rien, etc. Sauf que il faut répondre à la violence par la violence pour préserver la paix. Et là, quand je dis ça, j'entends déjà ceux qui me diront ouais, Antoine, t'es un va-t-en-guerre. Pas du tout. Je suis pas vent en guerre. Je ne souhaite pas la guerre. En revanche, je dis qu'on est devenu trop faible, qu'on s'est trop affaibli et que cet affaiblissement moral, physique, intellectuel nous rend fragiles face à nos agresseurs.
Moi, je crois juste que les choses reviennent à la normale. On est en train de vivre la fin de l'après-Seconde Guerre mondiale, même première, parce qu'elles sont très proches. Et on a vécu une période de paix, comme ça, très, voilà, sympathique, qui nous a peut-être rendu un peu naïfs, un peu faibles. Et là, on est en train de se prendre une claque parce qu'on se rend compte que le monde, lui, il a continué à vivre avec ses conflits, avec ses problèmes, avec ceci, avec cela. Enfin, on commence bien à sentir que nous, en Europe occidentale, en France, on est un peu, on fait figure d'exception. Je veux dire, quand on regarde le monde, il y a des conflits partout, quoi. Ça n'arrête pas, c'est constant. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que il faut arrêter d'être un peu naïf, faut commencer à être un peu sur nos gardes, faire attention, être un peu plus dur, et puis se rendre compte que le monde n'est pas aussi en paix et pas autant en paix que nous on peut l'être pour l'instant, quoi.
Oui, non mais
dernier mot.
Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais. Je ne peux pas m'empêcher, c'est pas parce que je vieillis et je suis nostalgique, c'est vrai que cette période de 89-91 est une période quand même... C'était bon de sentir ça dans l'air, c'est-à-dire la paix s'est fermée, le vieux conflit historique russo-américain s'éteignait. Moi, en tout cas, j'en ai des souvenirs, on est la même génération. J'étais plutôt content que le monde aille dans cette direction, même si les conflits autour continuaient, et je sais de quel monde je viens, et j'évoquais dans un podcast tout à l'heure quelqu'un, un membre de ma famille qui a connu un génocide, donc je suis pas du tout naïf sur l'état du monde, mais je préfère quand le monde me donne l'impression d'aller vers la paix, même si aujourd'hui il n'y va pas. Mais c'est vrai que quand, à 19 ans, j'ai vu le mur tomber, j'étais très heureux. J'en ai un très bon souvenir.
Merci à Louis au 32-16.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h-midi.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire ? Venez au stade Charletti le 8 juin, RMC lance le record du monde de course. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC, rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Attention, bientôt...
La roue RMC revient. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
On va regarder ce qui se passe en Italie. En Italie, ils ont décidé d'introduire des suspensions courtes de permis de conduire. Ça peut aller de 7 à 15 jours pour des délits sur la route. Au lieu d'enlever le permis définitivement, eh bien, tu perds ton permis pendant de 7 à 15 jours. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'il faudrait appliquer cela en France ? On a un débat avec les Grandes Gueules.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est le nouveau projet de loi relatif au Code de la route 2024 en Italie qui introduit ces mesures qui visent à dissuader les comportements dangereux sur les routes. Cette suspension vise des infractions spécifiques comme le non-respect des feux de signalisation ou encore, et c'est un véritable fléau, l'utilisation du téléphone portable au volant avec une durée donc variant de 7 à 15 jours de suspension de permis. Est-ce que la mesure doit être prise en France ? Est-ce qu'on pourrait s'en inspirer et renforcer ainsi la sécurité routière ? Le 32-16 pour réagir. Antoine Diers.
J'aime bien l'idée, parce qu'en fait... pourquoi ça te fait rire?
Je sentais que tu allais le dire avec beaucoup de fermeté, je me suis dit, est-ce que j'ai raison ou j'ai tort?
En fait, j'aime bien l'idée parce que je pense que c'est pédagogique. Là, je ne suis pas dans mon côté fermeté, je suis dans le côté pédagogique. Oui, quand c'est une amende, etc., tu la payes, quand tu perds des points, tu perds des points. Mais là, quand on te dira, pendant les 15 prochains jours, vous ne pouvez pas utiliser votre voiture, là tu dis, ah ouais, le risque, c'est bien ça, et je vais vivre sans voiture, et donc je vais me rendre compte de ce que c'est de risquer de perdre le permis. Pardon. Et donc, je crois vraiment que c'est la mesure la plus pédagogique, et je suis presque surpris que ça n'existe pas déjà chez nous. Ouais. Parce qu'en fait, ça me semble évident.
C'est du bon sens.
Voyons la mise en œuvre. Tu vas recevoir un courrier, ton permis est suspendu pendant 15 jours. Ouais, chérie, je m'en fous, je conduis quand même.
Sachant qu'il y a déjà des centaines de milliers, semble-t-il, d'automobilistes qui roulent sans permis.
Voilà.
Mais c'est des gens qui n'ont jamais passé de permis. Hein,
qui ne sont pas contrôlés.
Mais il faut savoir que
sauf si tu as un accident avec un mec qui n'a pas le permis, là, ça va être moins drôle.
Il y aurait peut-être 800 000 personnes qui rouleraient sans permis,
c'est des gens
qui n'ont jamais passé le permis de conduire.
Et donc, ils ont appris comme ça.
Ils ont estimé que ça coûtait trop cher le permis.
Mais tu cartonnes, t'es vraiment dans la merde.
Pas d'assurance et tout ça. Bon, alors Zora, est-ce que c'est une bonne idée?
D'abord, on rigole pas avec la route. La route, c'est sérieux. C'est pas un terrain de jeu où on fait n'importe quoi. Donc, du point de vue pédagogique, oui, ça peut être dissuasif sur le moment parce que tu prends la route pour partir en vacances ou tu bosses. Et on te dit, tu te mets sur le côté, tu ranges ta voiture, il y a une dépanneuse qui vient, qui la ramène chez toi et on te prend ton permis. Ça fait drôle quand même. Mmh. Ça, c'est quand même assez... Et puis, il y a assez de dingue sur la route pour se permettre d'être laxiste. Donc moi, je suis assez pour. Maintenant, je pense que les gens, quand on va faire ça... Alors, il y a les gens très sérieux et responsables qui vont se dire, on me retire le permis 15 jours, je ne vais pas rouler, je trouverai un autre moyen parce que je ne veux pas me mettre dans une situation... difficile, encore pire que 15 jours de permis en moins. Et puis, il y a les fous qui vont quand même rouler. Mais bon, il ne faut pas qu'ils se fassent choper. Ça veut dire que tu te fais choper alors qu'on t'a enlevé ton permis 15 jours. À mon avis, là, ça ne doit pas rigoler, quoi. Là, c'est définitif. Parce que je pense que sur la route, franchement, honnêtement, la fermeté, c'est pas un luxe, quoi. On met trop la vie des gens en danger. On doit tous respecter le code de la route. On doit tous faire hyper gaffe qu'il y ait personne à 5 heures du matin sur l'autoroute et que tu t'amuses à faire une pointe à 160 et que t'es tout seul.
Il y a personne.
Bon, à la limite, je me dis, allez, si t'es vraiment à 100% sûr de toi. Mais n'empêche que quand il y a du monde, tu roules à 50 en ville, c'est beaucoup. Il peut y avoir n'importe qui déboule un môme avec un vélo. Donc vraiment la route, ça rigole pas. Donc moi, je suis assez pour.
Frédéric Farah.
Bon, moi, je comprends la mesure, mais le problème, c'est que le diable est dans les détails. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir contrôler ça? Je n'y crois pas. Bon, quand même, globalement, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, les routes, par rapport aux années 70-80, sont moins dangereuses qu'à une certaine époque. Et d'autre part, je me dis, ok, on peut faire ça, ça peut être... Mais là, on reprend le problème du début de l'émission. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est-à-dire que les gens disent...
Ça n'empêchera jamais.
Voilà, le feu est rouge, je m'en fous, j'y vais, je ne respecte pas le code de la route, etc.
C'est l'incivisme.
Ouais, mais tant qu'on n'agira pas sur cette cause, et j'ai bien conscience que c'est très difficile...
C'est une question d'éducation.
Eh bien, on va devoir multiplier les réponses... pas répressive ou répressivo-pédagogique pour te faire plaisir, eh bien, 100% y parvenir. Mais je crois, effectivement, l'idée ne me choque pas plus que ça, mais j'aimerais que les choses se fassent en amont et qu'on n'ait pas tout le temps
obligé... Mais tu prends le problème de la propreté, Frédéric. Tu te dis, on ne comprend pas pourquoi les gens sont mal éduqués et que tu peux mettre tous les moyens avec le nettoyage, les gens sont sales. C'est... Donc, si tu dis, OK, on ne fait pas de répression, mais pas d'amende, comment se fait-il qu'il y a des endroits où certains pays, tout est toujours très propre?
C'est peut-être parce que les gens des pays où c'est sale sont venus chez nous.
Non, mais moi je peux te citer des endroits où c'est sale, ça n'a rien à voir avec les gens.
Ça marche à tous les coups, c'est-à-dire que tu visites des pays et tu te dis c'est vachement propre ici.
La mondialisation de la saleté, Antoine, nouvel épisode.
Là je ne m'attendais pas du tout.
Je sais pourquoi ces mesures, moi, même si je les comprends, ça me gêne un peu parce que je rêve d'un monde, alors peut-être on va me trouver naïf, pour moi la chose à défendre, c'est la responsabilité individuelle.
Bien sûr, mais on est d'accord.
Oui, mais ça, sur la route, malheureusement.
Mais voilà, et tout ce qui est surcontrôlant, j'ai toujours beaucoup de mal.
Est-ce que c'est pas plus malin quand même? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi notre système? On a 12 points et on perd son permis lorsqu'on perd ses 12 points.
Et il y en a qui font des stages.
Et quand on perd son permis, c'est radical. C'est-à-dire qu'il faut repasser, etc. D'ailleurs, certains ne le font pas. Mais bon, c'est quand même très handicapant. Après, il y a aussi ce système de stage qui est quand même un véritable business. Donc ça te coûte une fortune, plusieurs centaines d'euros pour passer un jour et demi.
Bah, c'est mieux de se faire retirer son permis.
Avec des gens qui te font la morale en disant c'est pas bien de griller les feux, etc. Et tu récupères 4 points. Ça, c'est très à la française. Et on a inventé un business. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc ça, à mon avis, si on casse ce business, ça va être compliqué. Mais donc l'idée, quand même, moi, je trouve pas idiote de dire 7 jours, 10 jours, 15 jours. En plus, c'est du concret.
Bien sûr.
Et puis tu vois tout de suite comme
Et c'est sur le champ.
Évidemment, merde, j'ai pas mon permis
sur le champ. Il faut que ce soit sur le champ.
Oui, allez hop, dépanneuse, et en plus, dépanneuse à ta charge.
Jean-Baptiste est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste.
Ah, c'est bonjour, la totale, là, tu fais moins con.
Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, que pensez-vous de cette idée venue d'Italie, chez nos amis italiens, à savoir des suspensions courtes du permis de conduire en cas d'infraction?
Bah, moi, je suis plutôt pour, effectivement, ce que je disais au standard. Je suis fonctionnaire de police. Donc, moi, tous les jours, je vois des délinquants de la route. C'est tous les jours, je vois des gens qui sont qui conduisent avec le permis suspendu, qui conduisent avec le seul de points nul. Donc effectivement, sur le fond, et qui font ce que vous disiez tout à l'heure, qui font des infractions, qui grillent des feux rouges, etc. Donc oui, une suspension courte, c'est très bien. Il y a franchement, c'est une très bonne idée. Maintenant, moi, c'est là où je suis un peu dubitatif, c'est sur la mise en place de tout ça. Parce que c'est les préfectures qui gèrent ça, et les préfectures, déjà, c'est déjà compliqué, c'est déjà très long.
Trois mois ou six mois pour avoir un passeport.
C'est ça. Donc, mais c'est eux qui gèrent les suspensions de permis. Donc, suspensions de permis à gérer. Oui, c'est une bonne idée. Maintenant, j'attends de voir comment ça peut être mis en place. Mais sur le fond,
c'est-à-dire que sur le terrain.
Et est-ce que ça sera respecté?
Jean-Baptiste, sur le terrain, comment on fait pour choper la personne sur le champ?
Mais ça se fait déjà, la rétention immédiate du permis de conduire. Pour les grands excès de vitesse, Jean-Baptiste, vous me contredirez peut-être, mais pour les grands excès de vitesse, les forces de l'ordre prennent le permis sur le champ déjà.
Mais là, tu vas pas suspendre sur le champ. Par exemple, imaginons, il y a un contrôle de police et hop, t'es pris sur le fait par des policiers ou des gendarmes, tu viens de griller un feu. Ils vont pas retirer ton permis tout de suite.
Il faudrait.
Et au point tu rentres à pied.
Tu payes la dépanneuse et tu rentres à pied.
C'est ce qui se passe. Si tu fais un excès de vitesse de plus de 50 km/h aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui peut venir chercher la voiture.
Là, griller un feu là, on parle du téléphone au volant.
En fait, l'enjeu, c'est qu'on revoit nos lois et que il y a le fait que les policiers ne peuvent rendre que des décisions administratives et pas des sanctions pénales. Et donc, il y a un petit truc juridique à regarder. Mais si le policier prend le permis, je vous ai vu, téléphone au volant, vous viendrez chercher votre permis dans 15 jours au commissariat.
Ça serait jouable, ça, monsieur le policier ?
Ça me semble efficace.
Bah, effectivement, si maintenant c'est remis au commissariat de gérer les suspensions des permis, oui, là, ce serait efficace, il y aurait plus d'impact et ça embêterait vraiment tout le monde et il y aurait du sens à tout ça, quoi, derrière.
Voilà.
Après, est-ce que les gens vont respecter? Ils vont peut-être se dire, oh là, il n'y a que 7 jours. Tant pis, je prends le risque.
Le bonhomme, il va arriver au commissariat. Et j'arrivais pas à me garer, là, pour récupérer mon permis.
Tu roules sans permis.
Il y en a. Ça m'a amusé quand tu as dit, il va rentrer à pied. Ça m'a fait penser à la scène du corneau entre Bourville et Louis de Funès.
Qu'est-ce que
tu
vas devenir?
Et qu'est-ce que je vais devenir?
À piéton, monsieur.
C'est un peu ça. Mais vous constatez, vous, Jean-Baptiste, énormément d'infractions sur la route.
Oui.
Il y a un relâchement.
Alors déjà oui, il y a un relâchement, ça c'est sûr, et surtout c'est ils reconnaissent pas, les gens ne reconnaissent pas l'infraction généralement. Ouais. C'est ça ou c'est normal. Je grille un feu rouge, bah oui c'est normal.
Ou je contracte pas.
Non pas du tout. Non
je rigole.
Il n'y a pas trop de remise en cause en fait, c'est ça qui est dommage. Donc effectivement, cette histoire de permis suspendu 7 jours, 15 jours, oui, ça donnerait plus d'impact et de sens nous aussi à notre travail derrière.
Donc vous êtes plutôt favorable, c'est plutôt une bonne idée.
Oui.
D'accord. Mais
est-ce qu'il y aura assez d'effectifs sur les routes?
Oui, c'est ça.
Oui, après, on est toujours en déficit d'effectifs. Mais
certains disent qu'il y a moins de contrôles routiers qu'avant.
Je m'en rends pas compte, mais en tout cas, on arrive à faire du contrôle routier tous les jours, à chaque fois que je travaille.
Dites qu'il y en a autant. Dites qu'il y en a autant.
Non, mais je trouve, peut-être qu'il y a un peu moins de gendarmes sur les routes.
On réduit les effectifs, on va faire des politiques budgétaires qui sont
pendant les JO. Parce que pendant les JO, toutes les forces de l'ordre vont être concentrées sur Paris, sur les sites olympiques. Ça va être
la fête au village
sur les routes de France.
Toi, c'est vraiment les automobilistes qui te font peur si les policiers sont pas là. Non. Moi, c'est plutôt la racaille qui va se déchaîner quand il y aura plus de policiers au fond.
Et qu'on va importer aussi.
Oui.
La racaille, elle ne pourra pas venir sur les sites olympiques. Hein. Ça va être une bulle sécuritaire.
Oui, mais justement, ils feront n'importe quoi partout ailleurs.
Donc les automobilistes vont faire n'importe quoi, la racaille va se déchaîner sur le Antoine Guerre.
Et ici la racaille est en voiture alors.
C'est encore pire, ça va vivre des merveilles alors.
La racaille véhiculée alors là.
Et qui jette des papiers partout.
Et qui jette des
Après le téléphone au volant.
Et qui téléphone au volant.
C'est rarement sanctionné parce qu'il faut prendre en flagrant délit. Il n'y a pas de radar contre téléphone au volant.
Il n'y a pas de dispositif automatique maintenant. Je crois que tu as des caméras qui te sanctionnent.
C'est vrai qu'il y a des caméras. Mais, mais il faut vraiment bien montrer. Il faut que la caméra filme vraiment. Parce qu'il faut prouver que c'est bien toi qui étais avec le téléphone au volant. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si vous avez déjà été arrêté pour téléphone au volant. Mais c'est assez rare, quand même.
Non, moi, je n'ai jamais été arrêté pour téléphone au volant. Je ne téléphone pas au volant.
Oh.
Il est merveilleux.
Il est merveilleux.
Par contre, je me suis fait arrêter pour un excès de vitesse une fois.
Il n'est pas merveilleux.
Il n'est pas parfait.
Il était à 8 grammes d'œufs et on l'a arrêté.
Je veux réagir à ce que disait Jean-Baptiste. Les gens ne reconnaissent pas l'excès de vitesse. Moi, j'ai fait oui. Je reconnais entièrement, etc. Non, parce que l'agent, j'ai abusé. Mais en fait, c'était naturel. Ils m'ont laissé partir. Ils ont dit merci monsieur, soyez prudent.
En termes de pédagogie,
c'était bien meilleur.
Et on l'appelle la racaille d'un cap depuis.
Vous
comprenez pas.
Écoutez-le.
Pédagogiquement, je me souviens toujours de cet agent de police qui m'a dit, monsieur, on va vous laisser partir, mais c'est exceptionnel. Vous avez une chance une fois dans votre vie. Et résultat, je me suis bien calmé après que cet agent de police m'ait dit, allez, je vous fais une fleur. Et c'est lui qui m'a, alors que j'étais un peu jeune, que je roulais un peu vite, c'est lui qui m'a aidé à me calmer.
Donc il a fait,
au sens de la pédagogie. Voilà, la pédagogie me semble bien plus efficace sur beaucoup de choses. Alors peut-être que c'est efficace uniquement sur les gens comme moi, mais bon.
Voilà. J'adore.
Alors tiens, regardons ce qu'on dit.
À chaque fois, il met le level un peu plus haut, tu sais.
Je sais que ça vous fait plaisir.
Regardons ce que disent ceux qui nous écoutent et où nous regardent.
On en est alors.
Faut-il instaurer des suspensions courtes de permis de conduire, vous êtes plutôt favorable. Vous dites oui.
La route,
à 64,1%.
Oui. RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Cruchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec les Grandes Gueules en toute franchise. Frédéric Farah, Julie Martinez, Mourad Boudjelal. On va parler maintenant des taxes pour sauver les villes les plus touristiques.
RMC.
GG, 7 et match.
À Venise, par exemple, il vous faudra un QR code. Alors, en fait, ce sera le signe que vous avez bien payé 5 euros pour entrer dans la cité des Doges. On va comprendre comment ça se passe. C'est Caroline Philippe qui est sur place pour RMC. Caroline, alors concrètement, comment ça se passe du côté de Venise depuis aujourd'hui ? Bonjour Caroline.
Bonjour les GG. Ça y est, les premiers passes sont scannés juste derrière moi. Le ticket d'entrée est officiellement requis depuis 2 heures. Alors je me trouve à la gare de Santa Lucia, à l'entrée de Venise, où une dizaine de contrôleurs s'affairent pour vérifier que les touristes sont en règle, mais aussi pour expliquer le dispositif. C'est le premier jour, donc l'heure est à la pédagogie, on va dire. Ce ticket obligatoire coûte 5 euros, vous le disiez, pour les touristes d'un jour. Mais si vous avez une réservation d'hôtel, ce ticket est gratuit, car l'objectif de la municipalité, c'est ce que m'explique ce matin tôt l'adjoint chargé du tourisme à la mairie de Venise, c'est pas de dissuader les touristes internationaux de venir découvrir ou redécouvrir Venise, c'est simplement de mieux répartir l'affluence. Ce ticket, il n'est pas obligatoire tous les jours de l'année. En 2024, 22 dates ont été sélectionnées par la mairie de Venise, des jours particulièrement fréquentés comme aujourd'hui parce que c'est férié en Italie et en plus il fait très beau, donc les gens se décident un peu à la dernière minute de venir passer la journée à Venise.
Mais comment les touristes accueillent-ils cette taxe alors, Caroline ?
C'est un accueil plutôt mitigé et qui dépend surtout du portefeuille. C'est ce que j'ai constaté. Évidemment, personne n'aime se retrouver coincé au milieu de la foule. Personne n'aime se retrouver au milieu d'une ruelle bondée ni attendre pour une place en terrasse. Pour autant, certaines familles me disaient que ce n'est pas 5 euros qui vont faire la différence. Quand on a les moyens de venir à Venise, de payer l'avion, de payer l'hébergement, on n'est plus à 5 euros près. La seule contrainte, c'était de penser à réserver ce petit ticket. Mais il y a aussi des familles plus modestes qui craignent que le tourisme devienne un luxe. Hier, j'ai rencontré une aide-soignante, Sophie, une aide-soignante alsacienne. Elle était en colère parce que pour elle, 5 euros, c'est un café, c'est une glace en moins dans sa journée de visite. Et au-delà du prix, c'est le principe qui gênait cette femme, parce que payer pour voir un monument, d'accord, payer pour entrer dans un musée, d'accord, mais pas pour déambuler dans une ville, pas pour simplement se balader. Après, quand on y repense, elle a fait le choix justement de venir hier et pas aujourd'hui, donc elle a finalement créé exactement ce que souhaite la municipalité, des reports pour éviter le surtourisme.
Mais Caroline, quand vous partez comme ça à Venise en reportage, c'est décompté sur vos jours de congé ou vous êtes payé? Comment ça se passe?
Je vous assure que je suis payé. J'ai rien payé, je suis payé. Mais je peux vous ramener des pâtes ou quelque chose si vous voulez pour me faire pardonner. Je sens la jalousie, les GG.
Merci Caroline, merci de nous avoir donné toutes ces précisions en direct de Venise. Merci Caroline.
Avec plaisir.
Frédéric, tu es pour cette taxe, toi, avec Julie Martinez. Pourquoi?
C'est le clan des nantis.
Mais tu sais,
c'est seulement.
C'est tout.
Voilà. Donc, alors, et qui excuse?
Laissez-le parler. Il va vous expliquer.
Je vais défendre ça en tant que laxiste, nanti, gauchiste.
Allez.
Et pour l'immigration. Donc voilà. Donc maintenant que tout ça a été dit, je peux attaquer mes arguments.
Bonne chance.
Merci. Alors.
Buona fortuna.
Grazie mille, sono pronto a continuer.
Il y a 45 secondes.
Bon,
voilà. Vite, vite.
Alors, pourquoi? Parce que je pense que ces villes, Florence, Venise, doivent trouver un moyen de concilier à la fois la possibilité pour les gens qui y vivent, y travailler d'un côté, et de l'autre côté, un tourisme, un surtourisme problématique. D'autre part, que ce soit pour l'équilibre de la ville, que ce soit même d'un point de vue écologique, et c'est important qu'on pense à un tourisme qui soit un peu... vraiment des villes éco-durables, si je puis dire, qui tiennent compte de ces éléments, c'est essentiel de réguler les flux. D'un côté, on se plaint, on se dit « Ah, il y a trop de gens qui viennent dans nos pays, c'est épouvantable et autres. » Lorsqu'il s'agit de préserver des villes et de faire une petite taxe, vous voyez bien quand même c'est intelligent en Italie. C'est certains jours, c'est pas tout le temps. Si vous avez une réservation, je pense qu'on doit trouver un équilibre pour permettre à ce que ces villes ne soient pas dévorées par un tourisme de masse.
Je peux te poser une question?
Oui.
Tu crois vraiment, sincèrement, que ça va dissuader? Parce que si j'y comprends bien, c'est qu'il y a trop de touristes à Venise et donc il faut réduire.
Non, c'est pas suffisant.
Il faut réduire. Donc tu crois que les 5 euros, ça va dissuader des gens qui viennent du monde entier pour visiter Venise?
C'est
parce que les gens du monde entier veulent voir Venise, veulent voir la Tour Eiffel à Paris, veulent aller un jour à New York. Enfin, et c'est pour ça d'ailleurs le problème du surtourisme, c'est que, et comme le dit très bien Jean-François Rial dans Le Parisien ce matin, notre copain patron de Voyageurs du Monde, il dit le surtourisme, c'est l'ennemi du tourisme, parce qu'effectivement, ça détruit la vie locale, ça nuit à l'expérience du voyage. Mais pardon, mais on favorise cela. Prenons le centre-ville de Paris, et Bernard Lavillardière avait raison. C'est-à-dire que tout est fait par la municipalité pour faire du centre-ville de Paris un futur Venise. Le Airbnb, on enlève les voitures, on interdit aux gens en gros de venir travailler. On interdit aux gens de venir commercer. D'ailleurs, les commerces de bouche disparaissent, les écoles d'ailleurs se vident, les familles fuient. Et donc un jour, moi je vous dis dans quelques années, le centre-ville de Paris, ça sera payant. Il faudra payer 5 euros. Mais en fait, le problème, c'est pas de faire payer, c'est
Si tu as une voiture, c'est
que les
déjà.
Autorités qui gèrent ces villes ne transforment pas ces villes en parc d'Euro Disney.
J'ajouterai un truc.
Alors, nous sommes 30 000 fois d'accord. 5 euros, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est pas le point d'arrivée. Oui, il faut lutter contre le phénomène Airbnb qui pose un problème. Dans le quartier de l'Alfama à Lisbonne, qui est un quartier historique, 60 à 70% désormais des habitations ont vocation et servent à du Airbnb, ce qui est un vrai problème. On a laissé la spéculation immobilière à Lisbonne partir dans tous les sens depuis 2011, qui fait que les Lisboètes peuvent même plus vivre là. Et je pense que où je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut combattre les villes musées.
Il faut que les villes restent des villes vivantes, avec du bruit, qui travaillent, on se déplace,
et donc
on bosse.
Toutes les mesures
avec des cambriolages. Sinon, vous allez à la campagne.
Voilà, toutes les mesures sont bonnes à prendre. 5 euros, ce n'est qu'un tout petit élément.
Non, mais là,
c'est un petit élément. Venise, que je connais bien, parce que je suis allé de nombreuses fois dans ma vie, c'est vrai, je ne vais pas en plaindre, parce que je suis le touriste, c'est irrespirable, et je me mets à la place des Vénitiens qui y vivent. Je pense que des gens comme moi, ils en ont marre aussi.
Mais si tu enlèves le tourisme à Venise, il reste de l'eau. Hein.
Non, mais oui. Ce qu'il y a à Venise, c'est qu'il y a quand même 50 000 Vénitiens. Il y a 50 000 Vénitiens et 30 millions de touristes. Hein? Alors, on sait, les critiques de l'UNESCO, on les entend depuis des dizaines d'années. On sait que le changement climatique plus le tourisme de masse, ça contribue à détériorer quand même ce bijou pour le patrimoine mondial de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il y a cette taxe de 5 euros. Alors, là où je trouve ça un peu aberrant, c'est qu'effectivement, ça va peser dans le portefeuille des plus pauvres qui, eux, veulent pouvoir voyager au même titre que les plus riches. Et c'est en ça que c'est pas suffisant. Il faut pouvoir prendre des mesures beaucoup plus fortes, avec des quotas par exemple, de visiteurs par jour, avec l'interdiction des gros bateaux qui arrivent comme ça sur Venise, qu'on voit déverser, qui sont plus gros que la Santa Maria qu'on voit en fond. C'est complètement scandaleux. Il faut responsabiliser les gens, mais pas sur le portefeuille des plus fragiles. Et c'est là où je
crois que ça va dissuader des gens de venir à Venise, c'est ça.
5 euros, ça peut être quelque chose dans le portefeuille d'une famille. Parce qu'il y a énormément d'exceptions, donc c'est aussi en ça que cette mesure est bullshit. Excusez-moi.
À 5 euros près.
Mais pas forcément, parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes italiens qui se permettent de faire en fait de Bologne jusqu'à Venise le petit trajet en train. Et 5 euros dans le portefeuille d'une famille, 2 parents, 4 enfants au-dessus de 14 ans, parce que l'exception c'est en dessous de 14 ans, c'est pas applicable. Et ça a un poids. Et c'est là en ça où je trouve cette mesure, cette taxe. Nécessaire, c'est un point de départ, mais il faut penser à d'autres mesures qui ne font pas la différence entre les différents budgets des différents touristes qui, en fait, ont tous, au même titre, le droit de visiter ce bijou. Mais il faut pouvoir réglementer ça.
On avait fait les calanques payantes, une calanque, notamment du côté de Marseille, la calanque du Sugiton.
Moi, je pense que cette histoire de 5 euros, ça n'a rien à voir avec la protection ou le surtourisme. C'est uniquement pour rentrer du pognon dans les caisses de la ville, point barre, ça s'arrête à ça. Alors, ils ont trouvé un bon alibi, habillé, parce qu'ils vous expliquent grosso modo qu'ils mettent les 5 euros le jour où il y a du monde. Ben oui, si tu les mets le jour où il n'y a personne, tu ne rentreras pas grand-chose. Donc c'est mieux de le mettre le jour où il y a du monde. Effectivement, ils ont raison, c'est bien vu économiquement. Mais surtout, Venise, je veux dire, si demain je décide d'investir à Venise, un commerce par exemple, je sais très bien que je vais vivre du tourisme et que je vais souhaiter qu'il y ait le tourisme le plus important possible. Et je trouve que c'est un impôt anti-pauvre. Parce que quand on voit le prix des hôtels à Venise, vous allez aller sur Booking, regarder le prix des hôtels à Venise, et on nous dit, ceux qui ont une réservation d'hôtel ne paieront pas les 5 euros. Mmh. Ça veut dire que ceux qui vont à Venise pour la journée, c'est les pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un hôtel, ou alors ils vont se le payer à... Et eux, on va les faire payer.
Mais c'est pour ça
c'est un véritable impôt anti-pauvre.
Et alors, on va regarder justement.
Je suis surpris et déçu de que Farah défende cette proposition.
Faut-il faire payer l'entrée des villes touristiques payer l'entrée des villes touristiques ou non? Alors, quel résultat final? C'est un non à 61%.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Alexa, mais RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire-géographie et le médecin, le docteur Jérôme Marty. On va s'intéresser maintenant à ce qui est préconisé en ce qui concerne les enfants et les téléphones portables.
RMC, les grandes gueules.
En fait, le président de la République doit aujourd'hui se voir remis une étude qui alerte sur les conséquences des écrans sur les tout-petits. Alors, il y a un certain nombre de préconisations et une ligne directrice, notamment les smartphones sans réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 15 ans.
Oui, ce sont des médecins qui ont travaillé sur cette étude, dont un psy. Ils veulent donc que les adultes reprennent le contrôle face aux écrans et par rapport à leurs enfants. Donc ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils appellent à empêcher tout usage par des enfants de moins de 3 ans du téléphone portable, des écrans. Entre 3 et 6 ans, un accès fortement limité avec des contenus de qualité éducative et accompagné par un adulte. La commission préconise de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans. Donc c'est l'entrée du haut collège, via un téléphone sans Internet jusqu'à 13 ans. Donc c'est un téléphone sans Internet, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec.
Et à partir de 13
ans, mais plus personne téléphone. Et à partir de 13 ans, la commission propose de donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Voilà, donc ça va être assez restrictif. C'est des recommandations, on verra ce que Emmanuel Macron en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces préconisations ?
Jérôme, puisque ça vient de la communauté scientifique.
Sur l'absence d'écran à 23 ans, oui, ça sans problème. Après, sur le fait de bloquer les réseaux sociaux jusqu'à faire avant 15 ans, je suis assez dubitatif parce qu'il y a tout. Enfin, il y a à la fois tout, mais il y a du bon et du mauvais sur les réseaux sociaux. Donc c'est
Et à partir de 15 ans, uniquement sur des réseaux éthiques. Ouais. Là, le problème, c'est que quand on leur demande de qualifier c'est quoi un réseau éthique, il n'y a pas...
Non, ce que ça soulève comme problème, c'est la problématique de l'absence de possibilité d'agir pour les nations sur ces énormes entreprises que sont devenues les GAFA, Google, Apple, Facebook, Twitter, etc., X. Enfin, c'est devenu des États dans les États, quoi. C'est devenu des supranations, quoi. Et
c'est surtout
ils arrivent à avoir leur propre justice, leur propre système. Enfin, ils ne respectent pratiquement aucune loi des pays où ils sont, et personne ne fait rien, quoi. Personne ne fait rien. Donc là, on dit on va interdire d'user. On sait que c'est pas possible. Enfin, je vois pas vraiment comment on pourrait faire. Pour empêcher un gosse d'accéder aux réseaux sociaux, on est incapable de les empêcher d'aller sur des sites pornographiques qui sont soi-disant limités aux moins de 18 ans. Donc comment tu vas limiter le reste? Par contre, chez les tout petits, ça oui, quoi. On voit l'écran est devenu une espèce de sucette numérique, quoi. On calme le gosse en lui donnant un écran. Sauf que la chuchu, elle te coupe pas du monde extérieur. Alors que là, ça les coupe du monde extérieur. Et donc, tu as une espèce de barrière qui se crée de plus en plus, avec des mômes qui sont aspirés par l'écran, qui n'ont plus de relation avec l'extérieur. Et ça, oui, ça risque d'impacter fortement le développement. Ouais.
Vas-y. Oh,
Bah, moi, ce que je pense dans ce qui me paraît être correct dans ce qu'ils ont dit, enfin, tu vois, on le sent bien, enfin, moi, j'ai eu des enfants, chaque parent le vive, c'est que la pression de l'acquisition du premier portable, elle est autour de l'entrée au collège, surtout dans nos zones rurales. Et je trouve que avoir un portable, c'est pas un accès illimité sur tout l'espace numérique du monde, quoi. Hein. Je pense qu'une période entre l'entrée au collège et une date que je sais pas comment ils ont fait pour la définir.
Mais c'est ça le problème.
Sans Internet.
Pourquoi 15 ans, pourquoi pas 14 ans?
Non, mais au lycée, c'est parce qu'ils font collège-lycée.
Ben, faire le collège avec un portable pour téléphoner, envoyer des textos sans Internet, je trouve que ça serait plutôt sain pour le développement des enfants. Après, quel moyen on a pour les contraindre là-dedans? J'en sais rien, quoi. C'est à mon avis très compliqué de les contraindre là-dedans.
Donc, d'ici à ce qu'on mette en place la loi, les portables existeront plus.
On est d'accord. Non, mais moi je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme. On sait très bien, même si on le souhaiterait tous, hein, qu'au collège, moi je pense honnêtement que jusqu'à la fin du collège, les élèves ne devraient pas avoir accès aux réseaux sociaux parce qu'ils sont incapables de gérer à la fois leur addiction, et c'est tout à fait normal, c'est fait pour, hein, c'est fait pour être addictif.
On sait tout.
La prévention, je veux bien. Alors maintenant, on nous dit qu'il va falloir faire des heures de prévention au numérique. Oui, ok. Donc, en plus des enseignements qu'on n'arrive déjà pas à transmettre, on va se taper le numérique. Bon, les parents sont aussi responsables. Donc, il y aurait quelque chose à faire. Néanmoins, comme on sait qu'on ne va pas y arriver, je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, on n'a toujours pas des politiques à échelle suffisamment forte, notamment à l'échelle européenne, qui ont le courage de se heurter aux GAFAM. Et aux Chinois. Voilà. Donc ça déjà, l'impuissance politique fait que on va interdire aux gens d'utiliser les réseaux sociaux. Ok. Donc vous signez là surtout votre impuissance. Deuxièmement, moi je suis pour qu'on enlève absolument l'anonymat. Je suis contre l'anonymat sur les réseaux sociaux, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, peu importe.
Ça n'existe pas l'anonymat.
Non, oui, mais si, les pseudos. Non, oui, mais si.
Les parce que anonymat, ouais.
Oui, mais on les retrouve, gens, les gens.
De on les retrouve, mais non, non, on les retrouve.
Ouais, mais il faut que ça soit grave pour les retrouver.
On les retrouve seulement avec t'as un nombre de signalements Pharos qui est absolument hallucinant chaque jour. On en a tous fait, moi j'en fais, d'ailleurs en ce moment j'en fais pas mal, des signalements Pharos. Pour l'instant, les retours sont minimums, parce que la police du numérique, elle n'est pas là pour pouvoir répondre à tout. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens, si déjà ils écrivaient sous leur vrai nom, crois-moi qu'ils écriraient différemment de la façon dont ils écrivent sous pseudo. La levée de l'anonymat, me semble-t-il, devrait être le B.A. Mais... Tu n'écris pas un livre, tu ne parles pas à la télé et en radio, tu n'es pas là avec un filtre et avec l'intelligence artificielle qui prend ta figure à la place. Tu assumes ce que tu dis. Quand tu as une parole publique sur les réseaux sociaux,
mais
tu
dois assumer. Là, on détourne un peu du sujet.
Non, on ne détourne pas, parce que je ne suis... Je
ça réglerait une partie des problèmes.
Si parce que là, on nous explique...
Si tu fais la levée de l'anonymat, tu règles une grande partie des problèmes.
On
les
nous
gens
explique,
s'auto-réguleront.
On nous explique que tout est la cause des réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il y a une montée de la violence, c'est les réseaux sociaux. S'il y a un retard à l'apprentissage, c'est les réseaux sociaux. Pardon, mais moi, je n'ai pas vu d'études le démontrant. Donc, moi, je trouve qu'il y a un bashing.
Si, il y a des études.
Il y a un bashing. Non, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études sérieuses qui démontrent précisément que le fait de regarder un smartphone gamin provoque des retards d'apprentissage.
Tu as du langage. Ah, si, si, il y a des.
Non,
alors
y a
là,
pas d'études sérieuses.
Si, il y a des études scientifiques qui ont été menées là-dessus.
Eux-mêmes ne le citent pas. Ils sont interrogés et disent oui, il y a des études, mais ils ne les citent jamais. Donc,
si, si, aux États-Unis, même en France, tu as quelqu'un qui avait écrit un bouquin et c'était un chercheur sur le. Non, non, mais il y avait avec des sources et il y a d'autres livres. Et il y a d'autres, surtout, il y a d'autres recherches scientifiques et médicales.
Moi, j'aimerais bien. Tu montreras les éléments scientifiques qui justifient, effectivement, qu'on interdise aujourd'hui les portables à des mineurs ou des réseaux sociaux. Je pense on est dans un bashing contre les écrans et les réseaux sociaux. Ben, la responsabilité individuelle, c'est aux parents.
Mais un gamin de 11 ans, c'est quoi sa responsabilité individuelle?
C'est aux parents. Mais c'est ses parents. C'est les parents de fixer des règles.
Écoute,
de fixer des règles, de dire.
Moi, je les vois, les parents au collège.
Ils
sont incapables de gérer leurs gosses avec les réseaux sociaux.
Voilà, donc c'est l'État qui gère rien, mais tout d'un coup va bien gérer ça.
Sur le fond, t'as raison, Olivier, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de problème.
Donc c'est. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des études scientifiques.
Non, mais. Justement, alors, attends, moi qui suis un vieux provincial, complètement réfractaire à tout ça, je m'amuse à regarder depuis 4 ans, 5 ans, dans une rame de métro où il y avait 10% de mecs sur leur téléphone, il y en a 110% parce que j'en vois avec deux écrans.
Non, mais c'est pas ça l'étude scientifique, c'est pas une étude scientifique. L'étude scientifique, c'est ceux qui nous expliquent que ça a un lien avec la montée de la violence, le retard d'apprentissage, etc.
Non, mais Olivier,
le fait que tout le monde regarde son portable dans le métro n'a aucun lien avec ce que je raconte.
Juste un point, n'oubliez pas le harcèlement en ligne, parce que ça, chez les gosses, oui, la violence, elle naît de ça. Et là où je te rejoins, c'est que souvent, le harcèlement en ligne est basé sur le pseudonyme.
Avant les réseaux sociaux, pardon.
Même chez nous, mais.
Il est aggravé par les réseaux sociaux, c'est incroyable cet aveuglement.
Alors attends, on va écouter.
Va voir une cour d'école, va voir ce que c'est un collège, va voir tous les. T'as 80% de tes problèmes qui naissent sur les réseaux sociaux.
Raphaël Grably, qui est avec nous, qui est chef de service tech BFM TV. Bonjour Raphaël.
Bonjour à tous.
Alors, smartphone sans réseaux sociaux jusqu'à 15 ans, est-ce que c'est possible?
Bah oui, c'est possible si techniquement on a des smartphones qui ne permettent pas d'utiliser ces applications et d'installer les applications, c'est possible. Après, ce qui est très compliqué, déjà j'entends parler de la majorité, de cette fameuse loi sur la majorité numérique à 15 ans, est-ce qu'il faut interdire avant 15 ans, etc. Déjà, faut dire un truc très simple, c'est que ça se fait pas au niveau français. Comme disait Barbara tout à l'heure, ça se fait au niveau européen. Donc il y a une loi qui a été votée sur la majorité numérique à 15 ans en France en juillet 2023. On sait qu'elle ne sera pas appliquée parce qu'on n'a pas le droit d'imposer des choses aux plateformes qui sont dans l'Union européenne, etc. Donc tout ce qui est loi franco-française, déjà je vais vous arrêter assez net. J'ai envie de dire c'est mort-né. Ça peut se traiter juridiquement qu'au niveau européen. Voilà. Et après, par contre, hormis le côté légal, on peut avoir le côté technique. Alors, il y a le problème de la vérification d'âge. C'est bien d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais comment vous vérifiez l'âge des gens? Parce que ça veut dire qu'il faut vérifier l'âge de tout le monde, hein, parce qu'avant on ne sait pas qui est majeur, qui est mineur, qui a plus de 15 ans ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'âge de tous les Français. Donc, techniquement, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce que vous donnez votre carte d'identité à Facebook, à TikTok?
Déjà, ça résoudrait les problèmes par rapport aux problèmes d'anonymat.
Moi, je donnerais pas ma carte d'identité à TikTok. Voilà. Aux Chinois, merci beaucoup.
Voilà. Donc en fait, ça crée d'autres problèmes techniques. Donc moi, là où
c'est pour ça que j'ai pas les réseaux sociaux.
Non. Mais là où on peut être assez pragmatique, c'est de dire en tant que parent, déjà, on a des outils techniques qui sont quand même plutôt bien faits, qui existent déjà sur iPhone, sur Android, qui permettent de gérer ou pas l'installation d'applications, tout simplement. L'idée d'un smartphone sans internet, c'est pas mal non plus, je trouve.
Je crois que c'est important au collège. Dans les premières années de collège, c'est important.
Exactement. Allez-y. C'est un smartphone pour, en tant que parent, être assuré, pour échanger. Bon, alors, sans aller vers le vieux Nokia, parce qu'honnêtement, imposer aux enfants d'écrire avec les claviers, les fameux claviers T9, là, qu'on avait il y a 25 ans. C'est un peu les punir. Mais un smartphone sans internet sur lequel on contrôle les accès sur les applications, j'ai envie de dire, c'est le plus pragmatique.
Mais Raphaël.
Oui.
Une question quand même, pardon. Tout ça, c'est bien. Là, on fixe des âges, 3 ans, 11 ans, 15 ans, pourquoi pas 14, 10, 12, bref. Quelles sont les études scientifiques sérieuses qui démontrent effectivement que depuis qu'il y a les réseaux sociaux et les portables dans les mains de nos enfants, ils ont un retard d'apprentissage, ils sont plus violents, ils sont plus ignares, etc. Moi, j'aimerais bien avoir ces études scientifiques. Parce qu'à chaque fois, on nous dit, il y a des études, mais moi qui regarde vraiment ce sujet, ça m'intéresse. Je suis parent, donc ça m'intéresse. Je ne les trouve pas, ces études.
C'est normal que tu ne les trouves pas, parce qu'honnêtement, il n'y en a pas vraiment.
Merci, Raphaël.
Le consensus, parce que quand on discute avec les spécialistes, le consensus déjà, c'est de dire l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction aux écrans.
Bien sûr.
Pour le moment, faut arrêter d'utiliser ce terme d'addiction, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de substance. Quand vous retirez un écran à quelqu'un qui consulte 12 heures par jour un écran, il ne va pas se trembler, il ne va pas avoir un problème de sevrage.
C'est pas la cigarette ou l'alcool.
Exactement. Donc, faut arrêter d'utiliser ce terme d'addiction. C'est pareil sur les jeux vidéo. Jamais aucune étude n'a montré que les jeux vidéo.
Ah oui, mais moi j'ai déjà vu des ados qui viennent fous quand tu leur confies le portable. Dire qu'il n'y a pas d'addiction.
Moi, en deux minutes, j'ai trouvé deux études sur une étude de 2023 américaine qui associe les écrans à retard de développement. Une autre qui montre que le temps des expositions excessives. Non, mais ça existe.
Je parle de consensus scientifique parce que des études, on en trouve tout.
Ah bah oui, d'accord. Mais enfin, pour qu'il y ait un consensus académique, il faut qu'il y ait eu plusieurs études.
Donc, la seule chose que l'on peut dire, c'est que le temps perdu ne se rattrape pas et que quand tu as des gosses qui passent des heures devant l'écran, pendant qu'ils sont devant l'écran, ils ne sont pas en apprentissage ou autre, c'est autre chose. Là où tu as l'impact, c'est aussi ça. Si tu veux, chez les tout minots, il y a ça, quoi.
Oui, on disait la télé quand la télé est apparue.
Voilà, alors déjà.
C'est exactement des amants. Il y avait des Jérôme Marty à l'époque qui nous expliquait le temps passé sur l'écran, la télé va te rendre dingue. Effectivement, si tu passes toute ta journée devant la télé, tu passes pas à faire autre chose.
Il y a quelques centaines d'années, on disait la même chose avec les livres.
Exactement.
La question, c'est pas est-ce qu'on est devant un écran ou pas, c'est ce qui s'affiche. Parce qu'en fait, on parlait des gens devant un écran dans le métro.
Si tu lis un livre.
Mais moi, quand je suis dans le métro, j'ai aucun livre chez moi parce que je l'ai lu sur un écran.
La question qui est posée, c'est pas ça. C'est faut-il interdire les réseaux sociaux? Donc pourquoi vous arrivez maintenant à dire, si nous sommes tous en train de lire Marcel Proust sur Kindle. Non, mais tout le monde est en train de lire Marcel Proust dans le métro, c'est bien connu.
Non, mais moi, je parlais de l'addiction.
Tout le monde est sur Twitter et TikTok.
Tu dis qu'il n'y a pas d'addiction, mais
c'est pas une addiction, c'est des modes d'usage. En fait, le problème, c'est que vous êtes dans une génération, effectivement, on n'a pas vécu ça, et c'est des modes d'usage. Effectivement, l'écran est partout maintenant, on peut le regretter.
J'ai une question pour Raphaël.
Déjà qu'il puisse finir sa réponse, et ensuite vous posez une question.
Parce que je ne voudrais pas du tout laisser penser qu'il n'y a aucun problème et que tout va bien. Par contre, dans le rapport, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on pointe souvent. C'est l'usage, le rôle des algorithmes.
Voilà, et ça, c'est très important. J'allais y venir.
Et là, on parle d'une balance, et c'est très intéressant de le poser comme ça, une balance bénéfice-risque. Et moi, j'irais presque dans un schéma un peu différent sur, par exemple, le Nutri-Score ou l'alimentaire. Aujourd'hui, quand vous trouvez un produit en supermarché, vous avez la liste des ingrédients. Je vois pas pourquoi, pour le numérique, on n'aurait pas la liste des ingrédients. Et en fait, la vraie problématique pour moi, c'est d'imposer la transparence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que TikTok, ce qu'Instagram affiche à nos enfants et comment c'est choisi. Et c'est ça qui est important. Donc en fait, ce qui est intéressant, le vrai problème, c'est l'opacité totale. Alors il y a le manque total de modération. Là, c'est le volet cyberharcèlement, mais c'est encore un autre débat. Par contre, sur le volet, entre guillemets, trouble de l'attention et retenue de l'attention, là, la vraie problématique, c'est de dire, si vous n'ouvrez pas vos algorithmes, vous n'entrez pas en Europe, vous sortez, vous n'êtes pas chez nous. On n'accepterait pas qu'une entreprise qu'on ne connaît pas, qui vient d'un autre pays sans les mêmes normes, arrive et mette des produits dans nos supermarchés. Donc je ne comprends pas pourquoi
on l'accepte. Raphaël, ça c'est une erreur.
Après, je m'adresse aussi à l'agriculteur, aux agriculteurs, ou parce que aujourd'hui, demain, l'Union européenne interdit TikTok. Bon courage pour aller vendre du vin en Chine pendant les
prochaines années. Je suis complètement d'accord sur le fond. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, présenter les choses de la sorte, c'est aussi rebalancer le problème sur les politiques qui, de toute façon, feront rien ou pas grand chose. Et je pense qu'il y a quand même un sujet autour de l'éducation et des parents, quoi, par rapport à ça. Mais il faut aussi les responsabiliser.
Raphaël, il y a quand même une différence.
C'est fini. Merci Raphaël Grabli. La discussion va continuer dans un instant. Et je remercie Raphaël d'avoir été avec nous, chef service tech BFM TV. Et on la reprend avec Michael dans un instant, qui est pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Et David, qui a deux enfants et qui a bloqué les réseaux sociaux sur leur téléphone. Donc deux témoignages. À tout de suite avec la Grande Gueule.
RMC, les Grandes Gueules, tous les jours, 9h30.
Du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
Jérôme Roten enflamme la planète foot.
C'est Roten sans flamme. Emmanuel Petit,
Pascal Olmeta,
Éric Dimeco,
Jean-Michel Larquet,
Christophe Dugarry,
Steve Savidan,
Denis Vérel et Andy Delors. Deux heures de talk autour du ballon rond avec la plus belle des Dream Team.
RMC Roten sans flamme, 18h-20h. Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. On continue de débattre de cette préconisation à propos des écrans pour les jeunes. Interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, les téléphones portables aux moins de 11 ans. Et puis après, on limite pour les adolescents, la ligne directrice, c'est smartphones sans réseaux sociaux jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée au lycée. On va en parler dans un instant avec Mickaël et avec David, mais j'ai juste une petite annonce à vous faire, et pas des moindres. Si vous voulez vivre l'expérience Ligue des Champions, la demi-finale c'est la semaine prochaine au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, et vous aurez compris que c'est donc
le dernier match de Coupe d'Europe,
le match retour. Eh bien, dès que vous entendez ceci, il faut à ce moment-là, vous avez 5000 pour m'envoyer PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS 732-16. Vous avez la visite des studios RMC. Ensuite, direction le Parc des Princes pour assister au match avec la personne de votre choix. Et vous revenez ensuite assister au débrief dans l'after avec Gilbert Bribois et Daniel Riolo. Donc l'expérience PSG Dortmund, vous envoyez PSG par SMS au 732-16. C'est le match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. On revient à notre discussion sur les portables avec Mickaël. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir écouté tout le monde, Mickaël. Vous êtes dans l'Oise. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on interdit les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans?
Ça serait une bonne idée de les interdire. Ça serait une très bonne idée. Après, au niveau légal, je ne sais pas comment on peut le faire. Il y a clairement l'éducation des parents à faire. Ça va sans le dire. Hein. Mais il faut. Même la Chine, la Chine interdit, enfin limite l'utilisation de TikTok à une demi-heure ou un truc comme ça. Aux enfants de moins de 15 ans. Si les Chinois le font, je pense qu'ils savent pourquoi ils le font.
Voilà. Vous êtes parent, vous, ou pas, Mickaël?
Moi, je suis parent et grand-parent.
D'accord. La question se pose plus, alors, pour vous, des réseaux sociaux?
Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est pour ça que je milite aussi pour le retour du 33-10, hein. Carrément, on pourrait relancer une production et peut-être même donner un 33-10 aux enfants, tout simplement. Parce qu'ils ont besoin d'envoyer des textos, ils ont besoin d'appeler les parents, on ne sait jamais.
Ce que vous appelez, il faut expliquer ce que vous appelez un 33-10.
Le vieux Nokia, voilà.
Ouais.
Vous avez Internet et on peut téléphoner et envoyer des textos. Voilà.
Point barre.
Et du coup, par ce fait, on peut même être en réseau avec ses amis par texto. Hein.
Exactement.
Quand on a cet âge-là.
Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucune modération, rien du tout.
Donc aujourd'hui, comme les parents n'y arrivent pas, Michael, vous dites faut serrer la vis directement. On va voir justement comment procède.
Je préconiserais de serrer la vis. Après, alors, le niveau légal, il faut trouver le moyen de le faire.
Michael, vous allez écouter ce qu'en dit David, qui nous appelle du Gard. Bonjour, David.
Bonjour.
Alors, bonsoir. Mais je vous en prie, comment vous faites, vous?
Alors, comment je fais? Ben, moi, c'est simple. Donc, j'ai un enfant de 15 ans, une petite de 11 ans. Via le téléphone, en fait, j'ai la possibilité de surveiller tout ce qu'ils font. Alors, je sais que malheureusement, quand vous dites il faut l'interdire, est-ce que légalement, ça serait possible et est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens détournés d'y accéder? J'ai du mal à y croire qu'une interdiction totale serait possible. En revanche, je pense que c'est de la responsabilité des parents et je pense que moi, mon fils à 15 ans, il n'a toujours pas les réseaux sociaux. Le seul que je lui accorde de temps en temps, c'est le réseau social WhatsApp, et encore si on peut considérer comme un réseau social, mais plutôt comme une messagerie privée. Et même quand il fait ça, quand il est sur WhatsApp, on voit aussi la déviance que ça peut avoir, puisqu'en effet, via son groupe, via son collège, ils ont un groupe intitulé Objectif 10 000. Donc ici, leur objectif, c'est d'être 10 000 d'ici la fin de l'année. Mais on ne se rend pas compte de l'impact derrière qu'il y a sur la partie sommeil, parce que ben, en effet, ça fait du message jusqu'à 1h, 1h30, 2h du matin, où l'enfant, du coup, ne dort pas, il veut regarder les messages. Enfin, c'est incroyable. Et donc, du coup, moi, je limite via mon téléphone, alors je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque, ou en effet, toute application qu'ils doivent avoir sur leur téléphone, ils doivent passer par mon aval.
D'accord. C'est pas mal ça, effectivement.
Donc, mais ça, c'est la base.
C'est vous qui avez la main.
Non, mais le contrôle parental. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que à chaque fois qu'on parle du contrôle parental, il y a des gens qui découvrent. Ah bon, on peut.
Non,
ça
mais
devrait même être.
Barbara, là, il faut pas sous-estimer les gosses, quoi. Enfin, moi, j'ai une compagne qui a été dans cette relation conflictuelle avec son fils, et je peux te dire que le contrôle parental, il durait une heure, quoi. Et il y avait des copains bien plus loués que lui qui craquaient le contrôle parental en une heure, quoi.
Oui, mais alors,
dans ce cas, tu vas voir, ça va être contrôle parental en direct live après.
Exactement.
Parce qu'après, si les parents sont pas capables de contrôler en live, c'est un autre problème.
Non, mais je pense que faire croire que tous les parents démissionnaires, c'est faux. Il y a aussi les parents qui se battent contre ça, mais qui n'ont pas forcément les arguments techniques, quoi.
Allez-y, David, alors, continue, poursuivez.
Si je peux me permettre, en effet, si ça allait au-delà de ça, et à un moment donné, par rapport aux notes de l'enfant ou par rapport à une problématique que je rencontre, en effet, où. Alors, ça jamais rencontré quand même de craquer le contrôle parental. C'est simple, je lui prends son téléphone, il reste à la maison et son téléphone ne touche plus.
D'accord.
Et je pense qu'il y a un réel bienfait. Enfin, si je peux me permettre, c'est que mon fils, pendant un moment, il y a eu des moqueries, peut-être à l'école, parce qu'en effet, il n'avait pas le réseau social. Mais si je vais plus loin et si je vous dis pourquoi j'ai mis ça en place, c'est qu'à l'époque, on s'est rendu compte qu'à 11 ans, on lui a donné un smartphone, justement, en entrant en 6e, en se disant de manière totalement innocente, ben, il a le téléphone pour aller au collège. Et sa mère, un jour, en allant faire ses devoirs, elle s'est rendue compte de quelque chose sur son téléphone, je ne le dirai pas explicitement. Et bien là, on s'est dit, waouh, en effet, bien smartphone, il y a des possibilités qui sont infinies de la part de l'enfant. Et donc, si on ne met pas des blocages dès maintenant, et si on ne le surveille pas dès maintenant, parce qu'on a beau dire qu'il est 11 ans, qu'il est 15 ans, qu'il est 16 ans, 17, il aura toujours des tentations. Et ces tentations-là, via les réseaux sociaux, je pense qu'elles sont énormes. Si on ne bloque pas et si les parents, en effet, ne prennent pas un minimum de responsabilité là-dessus, ben en effet, ça engendre, je pense, des violences. On le voit tous sur les réseaux sociaux, si on voit des choses ultra violentes. Oui.
David, vous avez réussi à garder le contrôle via une appli. Voilà, vous faites œuvre d'autorité. Je vous propose d'écouter Aurélie, qui nous appelle du Finistère, de Bretagne. Bonjour Aurélie.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Vous avez entendu l'exemple de David. Aurélie, vous, c'est la guerre à la maison, vous?
Oui, c'est un peu la guerre dans le sens où j'ai deux enfants de 20 ans et un autre aussi de 11 ans. Et donc, du coup, il se fait souvent moquer parce que c'est le seul qui a, un smartphone, certes, mais il n'a pas les réseaux sociaux. Comme disait David, la personne précédente tout à l'heure, en effet, il existe des applications maintenant où on peut surveiller, limiter le téléphone de notre propre enfant. Et moi, hormis, pareil, le WhatsApp, parce qu'il y a le groupe classe, il n'a pas les... Bon, je vais pas nommer, mais il n'a pas les réseaux sociaux qui existent. Il est limité à 2h30 de téléphone par jour. Son téléphone, il le prend le matin en bas. Et il le remet en bas le soir avant d'aller se coucher. Et son téléphone est bloqué systématiquement à 20h le soir.
Ah bah c'est très bien ça, Aurélie.
Bravo, vous y arrivez alors.
Vous y arrivez bien.
J'ai été obligée parce que j'ai eu l'expérience de mes deux grands où, pas eux directement, mais leurs amis ont été confrontés via les réseaux sociaux à des harcèlements, à des jugements parce qu'ils n'étaient pas habillés. Enfin, tout ce qu'on peut voir maintenant à la télé qui prend des proportions même très graves.
Ouais, et justement,
donc, c'est une façon de les protéger, en fin de compte.
Bien sûr. Et les deux grands, ils n'ont pas essayé d'influencer le plus petit, justement, en disant, tiens, regarde ça.
Non,
ça va.
Non, voilà. Au contraire, ils sont presque encore plus protecteurs que nous en disant, attention, mais ça, c'est pas pour toi. Mais j'ai envie de vous dire que même en étant limité, mon enfant de 11 ans, c'est, par exemple, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, j'ai été choquée. Il sait ce que c'est du cannabis, il sait ce que c'est de la cocaïne, il sait les... sans avoir droit aux réseaux sociaux, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que les copains les ont.
Bah oui, parce que quand il est au collège, il regarde les réseaux, et on va pas se mentir, dans certains collèges, ça tout dépend là aussi. C'est comme dans les familles, hein, une famille qui tient ses gosses et le collège où, qui est tenu ou pas. Mais vous
alors
avez
moi,
des collèges
dans
qui sont.
C'est un collège très strict, hein, quand même. Voilà. Le téléphone est interdit à l'intérieur, mais à partir du moment où c'est sorti.
Mais c'est vrai qu'une
collège,
fois qu'ils sortent, à la sortie du collège, ils sont tous sur leur téléphone.
Mais même si on peut bloquer. Par
on a
exemple,
déjà
Google,
eu des témoignages.
Vous savez, Google, on peut bloquer, par exemple, certains termes. Enfin, on peut mettre des limites sur la
sécurité.
On
peut mettre un filtre.
Et ben voilà. Mais même avec ça, ils arrivent à voir des choses.
Ben oui. Et puis, il y a toujours, comme le disait Didier, il y a toujours
un témoignage d'un copain qui monte un compte Facebook pour son copain qui n'a pas de téléphone.
Alors, Aurélie, je vous remercie d'avoir été avec nous et vous avez réussi.